19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous suivre. Oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est toujours un plaisir, la famille grandit, grandit, elle grandit. Pour commenter, analyser et décrypter l'actualité, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Allez, au sommaire de cette émission, chers amis auditeurs et auditrices, nous allons revenir sur la loi immigration avec tout ce que cela comporte. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans une impasse politique ou dans une crise politique? Va-t-il y avoir des compromis juste d'ici jusqu'à Noël? On va en parler. Notamment, est-ce que cela n'affaiblit pas tout simplement le chef de l'État, Emmanuel Macron? On en parlera. On parlera aussi, vous savez, de ce camouflet où le Conseil d'État demande à la France tout simplement de faire revenir, vous savez quoi, un Ouzbek expulsé pour soupçon de radicalisation. Bon, eh ben on en parlera. On reviendra aussi, vous savez, sur l'élève de 5e qui brandit un couteau et qui menace sa professeure. Et on posera la question, est-ce que la violence n'est pas tout simplement chez les plus jeunes, de plus en plus, dans une période extrêmement compliquée? On parlera aussi des incivilités et des violences à Lyon. Parce que les Lyonnais, eh bien, ils en ont ras-le-bol. Oui, paraît-il, et eh ben on va en parler. Et puis on viendra aussi sur la situation du conflit israélo-palestinien. Beaucoup de sujets, mais également vous aussi, au 0153 48 3000, vous pouvez nous appeler. Quand vous voulez, Solal est là pour vous accueillir au 01 53 48 3000. C'est parti, vous savez quoi pour l'interview du jour?
Les informés. L'interview.
Avant d'accueillir tout simplement les débatteurs influenceurs qui sont autour de ce plateau, oui. Tiens, je vais accueillir un invité surprise. Bonsoir l'invité surprise.
Bonsoir monsieur Adil Farkan, comment allez-vous?
Très bien, vous êtes l'invité surprise tout simplement parce que on va parler d'un sujet. Hein, et je vous laisse lancer ce sujet justement.
Alors écoutez, mon cher Adil Farkan, tout le sommaire dont vous avez parlé ce soir et qui est tellement important, on ne peut pas le comprendre sans remonter un petit peu en arrière. Oui. Il y a une date très très importante dans l'histoire de France, un jour où il s'est passé deux choses très importantes. Le 13 décembre 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été l'adoption, la promulgation de la loi SRU. Vous savez, la loi de solidarité urbaine, oui. Celle qui oblige les villes les plus riches à payer lorsqu'elles n'ont pas suffisamment de logements sociaux. C'est la loi de solidarité entre les villes les plus riches et les villes les moins riches de notre beau pays. Voilà ce qui s'est passé le 13 décembre 2000. Et puis le 13 décembre 2000, il s'est passé un autre événement. Oui. Il y a un petit Jésus qui est né. Un petit Radouane. C'est le Radouane Courac.
C'est vrai.
Le 13 décembre 2000, il y a eu deux choses. Il y a la loi de solidarité et il y a la naissance du petit Radouane Courac.
Bon anniversaire à vous. C'est une belle chose, ça fait plaisir.
On va en profiter pour saluer mes parents parce que finalement c'est eux les initiateurs de ça, ouais. De tout ça. Ma maman Linda et mon papa Abès.
Oui. Absolument.
Merci Michel pour cet hommage très surprenant.
Il vous remercie pour cet hommage, il vous dit.
Donc le 13 décembre 2000, c'était une journée importante.
Oui,
parce
ouais.
que la loi SRU, on en parle encore aujourd'hui.
Allez, Solal, regardez ce qu'on lui propose à notre ami Radouane. Regardez, écoutez.
C'est formidable.
Bon anniversaire, Radouane Courac, qu'on peut lui souhaiter. Bon anniversaire.
C'est aujourd'hui, bon anniversaire.
Et le gâteau, les bougies.
On va improviser un truc là, justement. Merci pour.
Sinon, il y a le Happy Birthday des Beatles également qui lui fait plaisir. Mais bon, allez, je vous embrasse très fort, mon cher Adil.
Michel, je peux dire un petit mot, Michel?
Oui, bien sûr. Attendez, il va vous dire un petit mot, Radouane Courac.
Je suis un peu ballonné pour cette émission tout à l'heure en arrivant au bureau, puisqu'avec Michel, on travaille tous les deux à Opinion Internationale. Il m'avait réservé un gâteau. Mais un gâteau qui est énorme. Un gâteau que normalement on ne doit pas manger avant de faire une émission. Sinon ça vous ballonne et puis ça vous...
Donc là vous êtes ballonné.
Voilà. Ah là je suis complètement ballonné.
Et sans faire de pub, c'était un merveilleux.
C'était un merveilleux gâteau.
C'est vrai. Merci pour ces mots et merci pour cet hommage mon cher Michel Taube, le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Et au plaisir de vous entendre.
À très bientôt.
À très bientôt, ici même, parce qu'il fait le coin de neuf. Bah écoute, avec plaisir. Attends, c'est normal.
Ça me touche. C'est voilà. Très gentil.
Bah écoutez, ça fait plaisir en tout cas. On va démarrer avec tout premier sujet, la loi immigration, messieurs, tout de suite. Est-ce qu'Emmanuel Macron, tout simplement, alors il l'a dit, il veut pas du 49.3, il va pas l'utiliser le 49.3, il l'a redit, etc. Et que tout simplement, au risque, même il dit même, il va loin, il dit même, si il n'y a pas de compromis, on n'arrive pas à trouver évidemment une forme dans cette commission mixte paritaire, eh bien, on laissera tomber la loi immigration. Vous y croyez, Nadir Kaya?
Non, ce que je
impasse politique, crise politique.
Impasse politique, crise politique depuis des années. Bien avant Macron, là, on est encore dans les résidus de l'héritage qu'on a pu avoir de certaines politiques, en passant par Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, voire jusqu'à Jacques Chirac, Mitterrand. Donc là,
vous
on paye.
Loin.
Tout n'est pas arrivé du jour au lendemain en France. Ouais. Après de dire qu'il y a trop d'immigrés ou pas, il en faut un certain nombre, un quota, une certaine quantité, qualification.
Mais sauf que la configuration a changé. Il dit qu'il est prêt à abandonner.
Mais le problème aujourd'hui, on est dans l'urgence en permanence. On n'est plus dans la réflexion. Donc à chaque fois, on met des sujets sur la table comme ça. On met la pression aux Français. On fait peur aux Français. On regarde un peu l'opinion publique, comment elle réagit par rapport à des sujets. Et puis nos politiques réagissent très rapidement. En mettant en place des lois qui sont en fin de compte pas suffisamment travaillées et qui n'aboutissent à rien. Donc là, en fin de compte, au-delà du débat politique et des clivages politiques, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans le fond du sujet. Vous allez dans certaines régions de France, il n'y a pas du tout d'immigration ou très peu. Là, quand on fait croire aux Français qu'on est débordé, inondé entre guillemets ou submergé par l'immigration, c'est déjà mensonger. On peut le dire dans certains quartiers de Paris ou dans certaines grandes villes de France, mais à l'image de la France, c'est pas le cas. Donc, bien évidemment qu'à un moment donné, il faut parler de l'immigration et réfléchir tous ensemble à savoir comment on fait adhérer certaines personnes ou certaines populations à notre France. Mais c'est déjà compliqué quand on voit déjà des personnes comme moi, issues de l'immigration, qui sommes déjà mis de côté du fait de notre immigration, de l'héritage qu'on peut avoir.
On va faire justement un petit tour de table. Je vais donner la parole à Radouane Koura, qui lui est journaliste, Nadir Kaya, président de Banlieue Plus, mais également aussi Guillaume Dessouy, qui est lui un élu de Villejuif, n'est-ce pas? Et un humaniste également.
Élu et membre du mouvement de la paix, donc effectivement pacifiste, humaniste.
Exactement, pacifiste, humaniste. Radouane Kourak, sur le même sujet.
Vous l'avez rappelé, Adil, je suis journaliste. Moi, j'aime bien rappeler, remonter les faits pour faire un cours historique. Finalement, pour moi, il n'y a ni impasse, ni crise politique. Le déroulé des choses est certes un peu historique, je vous l'accorde, mais ce n'est ni une crise politique, ni une impasse. La seule chose qui est limpide, c'est que c'est un texte dont on peut apercevoir la limite, et c'est la limite, c'est le en même temps. Le en même temps, finalement, c'est fini. Le projet de loi immigration, il s'est déroulé en plusieurs étapes. Darmanin a présenté dans un premier temps son texte. Ensuite, le texte a été durci par le Sénat. Le texte durci est arrivé à l'Assemblée nationale. Les oppositions avaient toutes des raisons différentes de s'opposer. Pour la France insoumise, il n'y a pas assez d'immigration en France, le texte était trop dur. Pour le Rassemblement national, il y a trop d'immigration en France, le texte était trop mou. Et les Républicains, finalement, c'est le texte du Sénat qui leur allait très très bien. Donc, hier, le texte s'est fait rejeter, mais Darmanin, dans une stratégie gaullienne, a présenté sa démission. Mais ça, finalement, c'est que de la communication politique. Maintenant, Darmanin peut se vanter de dire « Je prends mes responsabilités, j'ai présenté ma démission au président de la République, mais que nenni, elle a été refusée. » Et c'était la logique des choses. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que la commission mixte paritaire qui réunit 14 parlementaires va se réunir, peut-être avant Noël, peut-être qu'on aura une loi avant Noël, et certainement, on reviendra au texte initialement présenté par les Républicains.
Exactement.
Donc, au Sénat. Au Sénat, oui. Donc, on reviendra sur un texte durci. Le texte de Bruno Retailleau et de ses alliés, les Républicains et alliés centristes. C'est un vrai texte de compromis, finalement. Parce que cette majorité...
Donc, les victorieux, c'est plutôt les Républicains.
C'est les Républicains, mais ça prouve une autre chose.
Bah oui.
Ça prouve il y a deux conclusions à faire. C'est un vrai texte de compromis qui va être adopté, puisque la majorité parle souvent de compromis.
Donc, plus de majorité.
Mais dès lors que l'on brandit le 49-3 avant même qu'il y ait discussion, il ne peut pas y avoir de compromis. C'est impossible. Et l'autre élément...
Là, ça n'a pas été le cas.
Pour le coup. Mais là, les grands gagnants, c'est les Républicains. Et les Républicains, pourquoi c'est les gagnants? Les Républicains prouvent qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont les clés de l'avenir de la Macronie entre les mains. Oui. Et surtout parce que c'est le vote des Républicains qui rejette et qui permet le blocage de ce texte qui a été adouci par l'aile gauche de Macron au Parlement.
Oui, exactement. Oui. Guillaume Dessouy.
Oui, alors dans les collectifs qui s'intéressent aux questions d'immigration, on a coutume de prendre des choses totalement dans l'autre ordre. Et c'est peut-être là qu'il y a crise. C'est-à-dire que on ne parle pas de problème d'immigration, on parle de crise de l'accueil et problème dans la rencontre humaine. Les humains sont des voyageurs. Ils sont faits pour aller de pays en pays et s'enrichir les uns les autres. On ne pose cette question de l'immigration que sous un aspect qui est, entre guillemets, néocolonial. Un aspect qui est empirique. On ne parle que des questions d'accueil, des questions monétaires, des questions de PIB, et on ne parle plus de la qualité de la rencontre humaine. En crispant le débat uniquement sur ces aspects-là, effectivement, la majorité tourne en rond, mais toute la classe politique tourne en rond. Le problème, si on le prend vraiment jusqu'au bout, c'est qu'on a une France qui représente 1% de la population mondiale, qui, avec ses 1% de la population mondiale, est tout de même 23e puissance économique, et a un PIB qui représente 3% du PIB mondial.
Oui, exact, oui.
Donc, les grandes promesses de dignité humaine, les grandes promesses de la communauté internationale, on n'arrive pas à les conjuguer. Et c'est ça dont le gouvernement devrait s'occuper.
Oui, mais sauf que votre discours...
C'est pas que les promesses, c'est les valeurs de la République, les valeurs universelles de la République. Ce n'est pas des promesses.
C'est perçu par certains comme utopique. Voilà.
C'est un discours qui sent la naphtaline.
Non, c'est un discours d'ambition. C'est un discours d'ambition politique réelle. C'est-à-dire que quand on abandonne, parce que M. Macron a décidé de déconstruire les normes internationales, il le dit, et de se vouer uniquement à la compétition. Quand on abandonne ces questions-là, on est incapable de penser les défis économiques et des défis sociologiques du monde, et l'immigration, on ne peut pas l'arrêter avec des bulldozers, on ne peut pas l'arrêter avec des murs, on ne peut pas l'arrêter avec des barbelés, on l'arrête avec la coopération internationale, en faisant en sorte que sur la planète, il y ait des conditions égalitaires, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948, l'a promis aux humains de cette planète.
Non, mais par rapport à ce qu'il dit, moi je trouve que c'est pas utopique, c'est une réalité sur la base.
Certains, j'ai dit.
Sur la base de l'histoire du monde et des civilisations.
Est-ce
après,
qu'on est
le souci
de cette histoire-là.
Le souci, c'est que la dimension humaine et la dimension de la valeur humaine aujourd'hui, elle est mise de côté. On met simplement le sujet de l'immigration comme un sujet qu'il faut résoudre rapidement parce que on fait croire aux Français qu'on est envahi. Quand vous regardez un petit peu vos commerçants et les personnes qui peuvent agir au quotidien dans votre vie, votre charpentier, votre plombier, quand on regarde bien, la plupart ce sont des gens qui sont issus de l'immigration et puis la nouvelle immigration qui vient aussi de l'Est. Mais c'est une réalité même dans les beaux quartiers. Mais à la télé, quand les politiciens se présentent, ils font croire que tout va mal, qu'on est envahi et que y a une civilisation qui va remplacer notre civilisation. Et le français en général, je suis désolé de le dire, il est aussi limité dans sa réflexion, il est dans l'émotion. Donc aujourd'hui, on fait de la politique depuis toujours basée sur de l'émotion et sur de la peur. Et ça fonctionne très bien. Mais le souci, c'est que humainement, ça répond pas à nos problèmes.
Et politiquement, ça répond pas à nos problèmes. Ça crée une crise, et vous le posiez la question de est-ce qu'on a une crise à l'occasion de ce débat ? À l'évidence, on a une crise. Et pourquoi on a une crise ?
Moi, je pense qu'il y a une crise. Moi, je pense qu'il
y a une crise.
C'est pas évidemment une crise que Emmanuel Macron, le chef de l'État lui-même, il est prêt à abandonner justement.
Non, mais c'est parce que cette crise.
C'est pas une crise, ça ?
C'est parce que cette crise, elle est consubstantielle à l'élection première d'Emmanuel Macron, qui n'est pas un homme politique, qui n'est pas capable de gérer ses
problèmes. Ça ne se résume pas à lui en tant qu'individu.
Moi, je pense que
c'est le système politique français dans sa globalité qui est comme ça. Et on peut aller aussi au niveau de la frontière, on peut voir au niveau des pays européens.
Moi je pense qu'on est en pleine crise politique. Pourquoi ? Parce que justement Emmanuel Macron, il est prêt à abandonner tout ça.
Non mais on le sera, ça veut dire, on le sera jusqu'à la fin du quinquennat. Hein. Ouais. Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée, donc il y aura toujours des débats comme ça, avec des sujets qui seront rejetés.
Ce quinquennat, par sa singularité, son absence de majorité, est atypique et donc présente une crise politique permanente. Mais moi je pense qu'il faut arrêter avec cet argument de regarder le plombier, regarder le boulanger, c'est tous des immigrés, c'est tous des étrangers. C'est vrai, mais la problématique
c'était tous.
Non, mais la problématique.
J'ai pas dit de les regarder. J'ai dit de se rappeler cette réalité qu'elle a au quotidien.
Il va vous répondre.
La problématique, c'est quoi ? C'est pas de dire. En plus, c'est un discours très capitaliste de dire il faut de l'immigration pour faire le boulot de merde. Parce que c'est l'argument de des insoumis. L'autre jour, j'écoutais les insoumis.
C'est pas moi qui dis ça. Je pense que c'est des politiciens, la classe politique française qui pense ça.
L'autre jour, des élus de la France insoumise déclaraient que s'il n'y avait pas d'immigration, personne ne pourrait faire le boulot de merde. Pour reprendre leurs mots. Mais en réalité, c'est faux. Le vrai problème, c'est travail dans la dignité. Les Français, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est travailler dans des conditions dignes. Évidemment qu'il faut de l'immigration. Nous avons besoin d'une immigration, mais d'une immigration qualifiée et choisie. Aujourd'hui, la problématique, si on a besoin de 50 femmes de chambre, on n'accueille pas 70 personnes non qualifiées.
Mais
Après, ça dépend des,
ça dépend des
secteurs. Et quand tu dis qualifié, oui, mais non, à quel niveau? Après, là, il y a tout un ensemble de professions qui sont en déficit de candidats, de qualifications, de formation.
Mais non, mais la réelle problématique,
vous êtes complètement vérolé par la pensée coloniale. Parce que l'un comme l'autre, vous êtes en train d'essayer de faire croire aux auditeurs de Beurre FM qu'on peut choisir son immigration.
Bien sûr,
à la suite des critères que le gouvernement veut instaurer.
Alors, pour ma part, j'ai pas dit ça.
L'immigration choisie, ça n'existe pas.
Mais la France a le droit de.
Alors, c'est faux. Historiquement, c'est le cas. Dans les années 60-70, la France a choisi son immigration, et notamment maghrébine. Elle est venue chercher. Elle l'a choisi dans un premier temps. Elle est venue la chercher au Maroc, dans certains villages berbères et ailleurs, en Algérie également. Elle l'a fait venir avec des moyens conséquents dans les grandes usines de l'automobile française de son époque où c'était assez glorieux. Donc elle a choisi cette qualification parce que on avait encore des entreprises et un savoir-faire. Non, mais oui, mais peu importe que ça soit celle-ci ou pas.
Avec le colonialisme,
non, mais je donne un exemple canadien. L'exemple canadien, ils n'ont pas l'esprit colonial.
On reprend le débat, immigration. 0153483000, si vous voulez nous.
Non, les Canadiens sont
intervenus à l'antenne.
Je crois que c'est le pays le plus heureux du monde, selon les études.
S'il vous plaît. Pause et on se retrouve tout de suite après.
C'est le pays.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h21 précisément, avec Guillaume de Souy, qui est lui un élu de la ville de Villejuif, mais également pacifiste, humaniste, homme, personnalité engagée. Nadir Kayel, qui est le président de Banlieue Plus, mais également aussi Radon Kourak, journaliste. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un camouflet lorsque le Conseil d'État demande à la France de faire revenir un Ouzbék expulsé pour soupçon de radicalisation? Allez, il tend la main. Allez-y. Radon Kourak.
C'est un titre du Gorafi ou c'est sérieux?
Non, c'est sérieux.
Non, mais ça peut paraître quand même assez cocasse. Le Conseil d'État qui exige pour faire respecter une réglementation, une demande de la Cour européenne des droits de l'homme de faire revenir un Ouzbék soupçonné de radicalisation. Le Conseil d'État, je ne serai pas démago, a un rôle important. Le Conseil d'État a un rôle de conseil du gouvernement, mais aussi c'est la plus haute juridiction et la seule habilité à juger le gouvernement. Que notre haute fonction publique se concentre sur les réels sujets, qu'elle arrête sa démagogie et de suivre corps et âme et les yeux fermés les différentes juridictions européennes qui sont le réel problème de la France. Aujourd'hui, en France comme dans d'autres pays, c'est cette Cour européenne des droits de l'homme et toutes ces juridictions européennes qui nous pourrissent la vie.
Sauf que les services de renseignement le considèrent comme radicalisé.
C'est
très dangereux.
Mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. Il n'avait pas à revenir. Mais le Conseil d'État ne fait que suivre un règlement de l'Europe. Le Conseil d'État ne fait que suivre un règlement de l'Europe. C'est cette Europe qui nous pourrit la vie.
Et le Conseil d'État émet des suggestions. Le Conseil d'État n'a pas de pouvoir. Mais le Conseil d'État, historiquement, il a quand même à la base.
En réalité, il a deux rôles.
Il est là pour contrôler les lois et certains débats politiques, notamment.
Il décide parfois.
Non, il n'a pas décidé.
Non,
historiquement, il est là pour cadrer les lois et certains sujets qui émanent du gouvernement et voir s'il y a vraiment s'ils sont quelque part dans les clous. Mais de voir qu'ils sont capables de réagir comme ça par la suite, ça démontre qu'il n'y a pas un travail en amont. Ils sont censés, avant que le gouvernement ou nos politiques émettent, nos politiques en responsabilité émettent comme ça des lois ou des débats comme ça, ils doivent d'abord passer par le Conseil d'État. C'est pas le Conseil d'État qui agit par la suite. C'est en amont qui leur donne quelque part l'aval à leur dire, voilà, les choses sont cadrées, ça correspond effectivement à nos institutions, au cadre légal. Mais on voit qu'aujourd'hui, même eux, à leur niveau, se permettent de faire du buzz médiatique alors qu'ils sont pas censés le faire.
En plus, c'est très dangereux parce que ça
Guillaume,
nourrit... Pardon,
Guillaume,
je t'en prie.
Guillaume de Souy.
Il y a quand même un gros sujet sur cette question. On parle de faillite politique. C'est le fait que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, finisse par arbitrer sans cesse la politique du gouvernement tellement il y a d'impréparation. On nous a vendu des gouvernements avec des premiers de cordée, des gens qui savent tout sur tout, qui sont plus intelligents, plus omniscients que le Kidam et qui méritent absolument l'onction du président, parce que c'est comme ça qu'on nous présente les choses. Et ensuite, on se réfère sans cesse à des autorités qui viennent contredire le travail du gouvernement et qui viennent lui apporter des contradictions qui démontrent que le travail n'a pas été bien fait. Parce que effectivement, le monsieur étant fiché, la Cour européenne ne défend pas les gens qui sont fichés. Faut pas laisser sous-entendre des choses pareilles.
Non, mais c'est la réalité.
Façon dont le dossier a été monté qui contredit les droits humains et qui fait que l'État se retrouve dans cette situation pénible où sa décision est remise
en cause parce que justement
parce qu'ils font pas le boulot.
Ils ont tout simplement une lecture différente. C'est tout. C'est toujours pareil.
Une lecture de technocrate, de bureaucrate, et en plus,
c'est parce que c'est lié à une interprétation.
Le vrai problème,
c'est l'administration du ministère de l'Intérieur qui fait pas le boulot en conclusion du dossier.
La réelle problématique, c'est que ça va venir alimenter derrière des thèses populistes, et demain, on va avoir des candidats à l'élection présidentielle, parce que tout est lié finalement, qui vont proposer la suppression du Conseil d'État, parce qu'allez voir le citoyen français en lui disant, le Conseil d'État ordonne le retour d'un ouzbek fiché en France. On va dire que c'est le Conseil d'État. Et que ce soit l'extrême droite ou même l'extrême gauche, ça a déjà été proposé par le passé, la suppression du Conseil d'État. On a besoin du Conseil d'État en France. Et puis c'est ce genre de décision qui alimente les populismes en France. Et un jour, on va se retrouver avec un fou au pouvoir, comme un Javier Milei ou un autre, on ne sait pas ce qui peut se passer, qui va vouloir supprimer le Conseil d'État sur des thèses populistes. On a besoin de ce Conseil d'État, mais là, la source de du problème, c'est la lecture européenne.
Si on a besoin du Conseil d'État, parce que là aussi, on peut parler en termes d'objectivité. Le Conseil d'État, on sait très bien que ce sont des hauts fonctionnaires.
Bien sûr.
Ils sont liés politiquement au gouvernement en place. On place des anciennes personnes qui étaient politisées
avec le Conseil constitutionnel, Nadir.
On revient sur la même chose, ça reste des fonctionnaires et donc les fonctionnaires dépendent du gouvernement et donc ils font ce que le gouvernement leur demande.
Le Conseil d'État, c'est un espèce de tribunal.
Le Conseil d'État, son utilité, c'est de conseiller le gouvernement, d'émettre des recommandations. Par exemple, le dernier rapport qu'ils ont fait, c'est sur le dernier kilomètre des politiques publiques dans ce pays. Et puis il y avait un fait qui avait quand même été assez scandaleux lors du précédent quinquennat. Emmanuel Macron avec les cabinets de conseil de McKinsey, normalement on ne doit pas payer des cabinets de conseil, c'est nos hauts fonctionnaires qui sont au Conseil d'État qui ont ce rôle. Et puis à force de payer des cabinets de conseil, ça devient un placard doré, le Conseil d'État. Mais on a besoin du Conseil d'État.
12 milliards, effectivement, l'addition des cabinets de conseil dans le principe.
Alors qu'on paye une haute fonction publique.
Quinquennat.
Mais qu'à l'époque, ils n'étaient pas réellement compétents.
Je reviens sur cette histoire.
S'il vous plaît, on ne peut pas, sinon, c'est inaudible, vraiment.
Je reviens sur cette histoire de mettre en cause la Commission des droits humains au niveau européen. Les droits humains sont un socle intangible. Quand il y a un problème vis-à-vis de l'observation de la Déclaration universelle des droits humains, l'Europe a raison de le faire et le Conseil d'État a raison de le répercuter. Mais sérieusement, arrêtons de nous leurrer quand on veut bien faire le travail.
Quand
on veut bien faire le travail et quand le ministère de l'Intérieur le fait autrement que sous l'injonction de son autorité entre guillemets politique, eh bien quand le travail est bien fait, l'Europe ne dit pas qu'un présumé terroriste avec
pas terroriste.
Avec tous les contacts que ça comporte, doit absolument vivre en France.
Allez, messieurs.
C'est débilitant de dire des choses pareilles.
On va passer sur un autre sujet. Vous savez quoi? C'est cet enfant, cette jeune adolescence, à 12 ans à peine, préado, de 5 ans, qui brandit un couteau et qui menace sa professeure. Franchement, très honnêtement.
Une élève de 12 ans, dis-le.
12 ans, c'est ça. Non, mais attendez. J'avais envie de passer un coup de gueule, mais je vais vous laisser le faire parce que, très honnêtement, là, je comprends plus. Alors, est-ce que la violence touche touche les gamins de plus en plus jeunes.
Mais la violence touche toute la société. Il faut voir la taille du couteau. Ouais. C'est même les
bouchers. C'est un couteau de boucher.
Hein. Même les bouchers n'ont pas des couteaux aussi gros parfois. Il faut voir la taille du couteau. Une élève de 12 ans, un ou une élève d'ailleurs, n'a pas à venir au collège et n'a pas tout court dans sa vie à se procurer ou à se promener avec des couteaux pareils ou avec des armes blanches. Un couteau, c'est un ustensile, mais ça peut être une arme. Et puis, elle a couru après son professeur. Elle a couru après son professeur. Que voulait-elle faire? Elle voulait tuer le professeur. Aujourd'hui.
Pour se venger de lui avoir confisqué son portable.
Aujourd'hui, on a des jeunes dans notre société qui veulent se faire justice eux-mêmes. Et puis, c'est de la barbarie. Il faut le dire, Adil, c'est de la barbarie.
Non, mais c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est est-ce que les gamins veulent se faire justice?
Oui, bien sûr.
C'est ça la vraie question.
Mais ça, c'est à cause de la société, de la violence, de la
question. C'est compliqué parce que, avec l'effet miroir des réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a plus ou qu'on découvre certaines choses. Je pense
que. Là, il n'y a pas besoin de réseaux sociaux. Elle a 12 ans, avec un grand couteau.
La violence dans la société, elle existe. Elle a toujours existé. Après, on peut croire ou dire qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus importante et puis elle touche de plus en plus nos jeunes, de plus en plus tôt. Bien évidemment que c'est affolant comme situation d'imaginer ça. Mais maintenant, après, on va dire oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir faire de nos écoles un bunker comme aux États-Unis avec un PIF, des agents de sécurité, une société privée, filtrer tous les enfants. C'est toujours pareil. Je le disais tout à l'heure, on est dans l'émotion aujourd'hui. On n'est pas là pour réfléchir, malheureusement, parce que les politiques, eux aussi, jouent ce jeu-là. Et c'est un jeu qui est pervers parce que ils sont pas là pour calmer la situation.
Mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une jeune gamine de 12 ans qui vient avec un couteau.
Tous les sujets sont liés à la société et à l'état d'esprit dans laquelle on est. On vit dans une société où tout va très vite. Aujourd'hui, bien évidemment, les premiers responsables de cet enfant sont les parents. Donc déjà, on peut revoir aussi à ce niveau-là qu'est-ce qui cloche chez les parents ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est pas peut-être que les parents, parce que vous avez des parents qui peuvent donner une bonne éducation aux enfants, et les enfants, on le sait très bien, à l'extérieur, peuvent avoir un comportement différent en fonction des fréquentations. Mais là, on arrivait à ça. On peut se poser aussi la question de l'importance du téléphone dans la vie de nos enfants. Là, vous avez dit que cette fille a fait ça parce qu'on lui a confisqué son téléphone. Donc, pour elle, le téléphone, c'est quelque chose de primordial, même de vital. Donc, j'imagine que quelque part, voilà, elle est tellement accro à son téléphone qu'elle en arrive à ça. Donc, on peut se poser la question. Et donc, les adultes, c'est nous, c'est pas elle. Donc, si cet enfant-là a failli, il faut aussi remettre en question l'autorité des parents, mais celle aussi de la classe politique.
Guillaume, dessous. Bon.
Les questions que pose Nadir sont tout à fait justes et je reconnais bien là le travailleur de terrain issu de l'éducation populaire. La grande question, c'est celle-là, c'est celle de l'éducation populaire. On est dans une faillite où les réseaux sociaux font l'éducation populaire de nos enfants tellement il n'y a pas d'interlocuteur par ailleurs. Il n'y a plus de ministère de l'éducation populaire, il n'y a quasiment plus de ministère de la jeunesse. Comment on s'étonne que, d'une certaine manière, le réflexe le plus grégaire soit aujourd'hui en train de devenir une épidémie? Mais bien sûr qu'il faut monter des barrages contre la violence. Bien sûr qu'il faut travailler tous les jours. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait tous les jours des gens sur le terrain pour que ces enfants, quand ils vivent un drame aussi, entre guillemets, vain, que celui de se faire confisquer son téléphone, eh bien, ils puissent en parler à quelqu'un et ils puissent dégoupiller ce raisonnement que s'ils vivent seuls peut devenir délirant.
Vous écoutez parler, j'ai l'impression que vous nuancez la gravité de
l'événement. Il ne faut pas nuancer.
Vous êtes en train de vous défausser. Tranquillement à l'antenne ici dans les informés. En gros, cette gamine, on lui a confisqué, mais c'est normal qu'elle vienne avec un.
Adil, si je peux permettre, c'est pas parce qu'on n'élève pas la voix.
Adil,
la gravité des faits.
Tu ne m'as pas écouté, j'ai dit bien sûr qu'il faut lutter tous les jours contre la violence. Et effectivement, cette jeune fille, ce qu'elle fait, c'est.
Non, mais.
irréparable.
Il faut arrêter de vivre dans le monde.
Elle est victime de ce qu'elle vient de faire. Hein,
non, parce non, non, que elle n'est pas victime.
Sur un moment de délire à 12 ans, elle va se retrouver en difficulté pendant des années.
Il vous répond.
Non, non, Guillaume, c'est scandaleux ce que tu dis. Cette gamine n'est pas victime. On lui a confisqué son téléphone. On confisque le téléphone d'un élève. Il y a des règles dans un établissement scolaire. On ne doit pas justifier cet acte. C'est une gamine qui se balade
avec 12 ans, tu te lèves le bon matin.
Mais c'est une élève.
Je vais aller faire le prof.
Mais
je vais aller avec mon couteau.
Non,
mais
on a connu des.
C'est une élève qui se balade avec un couteau de boucher pour clairement agresser son professeur. Il faut le retour de l'autorité. Le retour de l'autorité à l'école.
Mais il n'y a pas que
le rôle de l'école. Le rôle de l'école.
On peut demander l'autorité à l'école, effectivement.
Le rôle des parents.
On peut demander l'autorité des parents, s'il vous plaît. Mais il faut aussi l'exemplarité de nos hommes politiques et de la classe politique. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Mais cette gamine n'a rien à faire. Tu crois que cette gamine n'a rien à faire?
Je ne parle pas d'elle en particulier. Je dis que c'est un tout. On est tous liés aussi. La société. On ne peut pas prendre cette petite, l'isoler, mettre sa famille de côté et faire croire que c'est elle le problème, tout simplement.
Mais oui, mais
il y a une raison à ça. L'acceptation du téléphone, déjà. Le téléphone. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. Donc, un enfant aussi peut y accéder, même un enfant qui a 12 ans, regarder des vidéos. Et ça aussi, c'est de la responsabilité de l'État, notamment sur la réglementation. Et là aussi,
je vous redonne la parole.
L'État, sa responsabilité.
Promis, on marque une courte pause. Et je vais accueillir tout à l'heure Lina du 93 et tous les autres au 01 53 48 3000. Guillaume, juste après la pause, je vous donne la parole.
Merci, Adil.
À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h40, dernière ligne droite avec Guillaume Dessouy qui est un élu, avec Nadir Kaya, président de Banlieue Plus, et avec Redouane Kouarak qui est journaliste. Lina du 93, bonsoir Lina.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous nous appelez de quelle ville?
De Pavillon-sous-Bois, dans le 93.
Vous êtes jeune, vous, dites donc, avec le son de la voix.
Il y a 14-15 ans.
Vous avez quoi? Vous avez... Oui, c'est ça, 15 ans, facile, non? 16 ans,
non,
17 ans?
Non, j'ai 19 ans.
19 ans? Ah ouais. Bien, ça fait plaisir d'entendre des... ça fait plaisir, Lina, d'entendre les jeunes auditrices nous appeler et participer, s'intéresser à l'actualité. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous comme sujet?
Ben, je voulais rebondir par rapport au débat que vous aviez tout à l'heure.
Oui, lequel?
Je pense que...
Ce qu'on a
abordé début de... Sur quel sujet?
Sur la jeune fille.
Il y a eu quoi? Sur la jeune fille avec son couteau, la loi immigration, qui?
Ben, en fait, je pense que les deux débats sont liés, c'est-à-dire la loi...
Coup de couteau
Non. Je pense que la remise en cause des institutions...
Oui.
En fait, ce genre de réaction... Je pense que c'est lié à une remise en cause des institutions, c'est-à-dire notamment un manque sentiment d'efficacité de la justice, et qui pousse notamment les jeunes qui manquent, qui sont totalement sur les réseaux sociaux et qui sont encore jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore réfléchi bien à ce qu'ils font.
Attendez, c'est très important ce que vous êtes en train de nous dire, parce que moi ça m'intéresse justement les points de vue des jeunes comme vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? La corrélation entre quoi et quoi? Parce que vous dites, je comprends où vous voulez en venir, mais vous voulez dire qu'en gros cette jeune de 12 ans justifie son geste de venir avec un couteau parce qu'il y a un manque d'autorité, parce que la justice n'y croit plus et parce que c'est les réseaux sociaux qui décident?
Alors, je pense que c'est pas justifiable. Déjà, tout d'abord, c'est totalement pas justifiable ce genre d'acte, et ça doit être puni pour ce qu'ils font. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a tellement un sentiment de remise en cause de la justice, notamment surtout des institutions. On voit que le Conseil constitutionnel qui est là pour juger les institutions et qui est composé de personnes qui n'ont même pas des capacités en droit, c'est-à-dire que c'est même pas requis d'avoir des études de droit ou de politique, et qui sont membres de ce conseil-là pour juger avec tellement d'ampleur et tellement d'importance, pour juger des causes qui, au final, il manque de profession, si je puis dire. Donc je pense qu'en fait il y a une remise en cause.
Attendez, Guillaume qui veut échanger avec vous. Guillaume,
oui, parce
Lina,
que moi,
Lina, c'est très intéressant ce qu'elle dit.
J'entends
19 ans.
Ouais, ce que vous dites, Lina, je l'entends très positivement. Et ça revient à ce qu'on se disait juste avant la pause sur l'autorité. Redouane, sortait le grand chapeau de l'autorité.
En gros, ce qu'elle est en train de reprocher, Lina, c'est que
les Français veulent de l'autorité.
L'autorité.
Et ce que dit Nina, c'est que les jeunes, ils ont la clairvoyance de voir que l'autorité négative ne mène à rien.
C'est quoi l'autorité négative ?
Elle tente de terroriser, elle tente d'interdire, elle tente de saper les rapports humains, et elle ne mène à rien. Ce dont a besoin la jeunesse, c'est d'une autorité positive.
Mais c'est quoi l'autorité positive ou négative ?
Qui est à la racine même du terme autorité. Autorité, c'est ce qui autorise.
Il faut être autorisé.
C'est d'abord dire ce qui est autorisé.
Ou qui n'autorise pas.
Et les jeunes ont besoin de confiance. Non. Et avoir besoin de confiance amène à se sentir bien et à ne pas avoir ce type d'acte complètement déviant.
Lina, on vous laisse finir avant de vous libérer.
Déjà, par rapport à ça, je pense que l'autorité, même dans ce qu'elle sert, en fait, je pense que l'autorité, elle n'est pas utilisée à bon escient dans tous les domaines, parce que c'est-à-dire qu'on a une autorité qui est investie avec des moyens fondamentaux, des moyens qui sont développés énormément dans certains domaines et qui devraient l'être plutôt dans d'autres domaines. Et vraiment, se rapprocher de la jeunesse.
Bon, j'entends ce que vous dites, Lina. Moi, ça m'intéresse. Mais attendez, moi, j'entends très bien ce que vous dites, Lina. Vous avez 19 ans, vous êtes jeune, vous avez une réflexion, une maturité de réflexion. Mais une question très simple, Lina. Vous parlez d'autorité, mais qu'est-ce qui justifie que la gamine vienne avec un grand couteau? Un couteau de boucher?
Le désespoir.
C'est quoi?
Mais le désespoir.
Cet acte, je ne le justifie pas, bien sûr. Mais je pense que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, je ne sais pas qui l'avait dit, mais elle est elle-même victime de ce manque d'autorité, en fait. Et elle n'a pas l'âge nécessaire et l'âge requis pour avoir assez de maturité pour comprendre ce qu'elle fait, en fait.
Après,
donc, responsabilité, elle ne vient pas forcément d'elle, vu son âge très petit.
Moi, si je peux me permettre.
Je pense qu'elle vient d'une autorité plus haute.
Lina, merci d'être intervenue, Nadir Kaya. Merci, Lina. Je pense, franchement, vous revenez quand vous voulez, Lina.
Merci à vous.
Je pense que c'est pas simplement une question d'âge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la société, elle est défaillante à tous les niveaux. C'est toujours pareil. On peut parler de tous les sujets. On va revenir toujours à la même chose, aux responsabilités partagées. Donc là, on peut expliquer qu'il y a une part de responsabilité de la part des parents, de l'autorité au niveau de l'école, mais aussi de la fille en elle-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc quand on regarde bien, à toutes les échelles, il y a des défaillances.
Ah, là, ces défaillances. Qu'est-ce que vous répondez à ces incivilités et délinquances, justement, à Lyon? Lyon qui est touché de plein fouet par ces nouvelles tensions qui font et les Lyonnais en ont marre. Ils en ont ras-le-bol. Ils l'ont dit. Et cette violence urbaine continue. C'est-à-dire que. Non, mais je vous pose la question. Que se passe-t-il?
C'est des violences d'extrême droite.
Guillaume, non, c'est pas tout.
Non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. C'est pour arrêter à chaque fois de parler de l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite qui agresse des gens dans la rue. Ça arrive. Mais c'est pas une généralité. Non, ça arrive.
On sent le sympathisant, là, quand même.
Ah non. Du tout.
Non, c'est une boutade.
Non, bien sûr. Tu fais bien de le préciser. Mais tout à l'heure, Guillaume parlait d'autorité positive. Mais c'est quoi l'autorité positive?
C'est celle qui fonctionne.
C'est apporter des alternatives.
Ces incivilités à Lyon. Les gens qui font ces gens qui foutent le bordel dans nos rues, il faut le dire. Il faut les mettre en prison et il faut une autorité ferme.
Clochette.
Mais ça ne marche
donc,
pas la prison.
J'avais raison, mais c'est pas une boutade.
Redouane, il faut aller en prison. Il faut parler de ce qu'on sait, il faut parler de ce qu'on voit, il faut pas parler des choses de façon incantatoire. La prison ne va pas résoudre le problème de jeunes qui squattent et qui foutent le bordel. Elle ne va faire que calmer la sécurité.
Sinon, on s'entend pas.
La prison met hors d'état de nuire des gens qui perturbent le bon fonctionnement de la société.
Non, c'est totalement faux.
Vous avez énervé Guillaume.
Si je peux me permettre, c'est totalement faux sur plein d'aspects. Premièrement, il n'y a pas suffisamment de prisons.
Bien sûr, il faut construire davantage.
La prison aujourd'hui détruit les prisonniers.
Oh, mais les prisonniers, s'ils sont en prison, c'est qu'il y a une raison.
Non, mais il y a plusieurs niveaux.
La réhabilitation est un des premiers sujets de la prison.
On peut aller en prison pour chacun de nos rôles, s'il vous plaît. Il y a plusieurs raisons, mais ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est que déjà, quand on parle comme tu l'as fait, c'est un peu surfer sur la peur et dire tout n'importe quoi et de faire croire aux Français qu'en mettant les gens en prison, on va régler le problème. Non, c'est plus compliqué que ça. Il
n'y
a pas suffisamment de prisons. Il n'y a pas suffisamment d'intervenants dans les prisons pour mettre au jour, entre guillemets, la réinsertion des prisonniers. Ça, c'est aussi des réalités. Donc, dire il faut les mettre en prison, c'est pas suffisant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on est encore dans l'émotion, il faut de la réflexion et le temps nous manque malheureusement. Donc oui, il faut être ferme quand il y a de la délinquance. Après, il y a plusieurs niveaux de délinquance. Et là, je parle aussi d'exemplarité. C'est toujours pareil. Vous avez des hommes politiques et des femmes politiques qui vous disent il faut être plus ferme, mais eux-mêmes ne sont pas exemples. Donc à un moment donné, et les Français aussi, pour certains d'entre eux, te disent oui, il faut être ferme, mais eux-mêmes ont parfois des comportements qui sont parfois condamnables ou qui sont parfois douteux. Donc à un moment donné, là aussi, il faut essayer d'avoir un débat équilibré et des réponses équilibrées dans une société qui est de plus en plus violente.
Mais moi, j'encourage les peines alternatives. Moi, j'encourage les peines alternatives. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, c'est la récidive dans notre société. Ces gens qui perturbent les rues, qui perturbent le bon déroulement de la tranquillité publique dans les rues de Lyon, c'est pour beaucoup des multirécidivistes déjà connus des services de police. La peine alternative, c'est une fois, deux fois, mais pas trois fois. La troisième fois, tu vas en prison et il faut construire des peines. Oui, il faut construire des places de prison.
Bah oui, mais ça va avec. On ne peut pas simplement dire il faut les mettre en prison. Il faut tout un travail aussi qui va avec.
Évidemment,
et aujourd'hui, malheureusement, les politiques ne le font pas.
Évidemment,
Macron n'a pas construit une seule prison.
Guillaume
Dessous. Non, mais c'est pour dire, voilà.
Guillaume Dessous. Et en responsabilité. En dehors de construire des prisons, il faut peut-être lire les rapports qui ont été faits sur les prisons et qui montrent que celles-ci sont totalement défaillantes. Elles sont insalubres. Les conditions.
Surpopulation.
On parlait de problèmes.
La France a été condamnée pour ça.
Psychiatriques en France.
Laissez-le parler, s'il vous plaît.
Les prisons ne tiennent que par la camisole chimique. C'est des poudrières. C'est un vrai gros sujet. Le sujet qui peut permettre de sortir positivement par l'autorité, c'est toujours et encore l'éducation et notamment les relais d'éducation populaire.
Ne nous mettons pas en retard, le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Comme chaque mercredi, vous le savez, c'est le El Professeur, le docteur Majid Seoussine. Bonsoir, El Professeur, docteur.
Bonsoir, Adil. Comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie infiniment. Vous m'avez l'air enthousiaste. Que se passe-t-il?
Je suis enthousiaste parce que il pleut, il fait gris, il y a des embouteillages partout. Voilà pourquoi je suis enthousiaste.
Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Vous allez nous enthousiasmer, justement, avec une expression que je lance avec votre billet d'humeur. Tout de suite, là, maintenant, évidemment, vous allez de Dubaï aux Émirats, en passant par l'actualité de l'Hexagone. On vous écoute.
Tout à fait. Bonjour, Adil. Ça va pas du tout. Moi, je suis complètement perdu. Je finis par me demander si je ne suis pas en train de couver une démence. J'en perds mon latin.
Elle était pas mal.
Que les républicains votent RN, ça ne me surprend pas. Je considère depuis longtemps que c'est l'avenir des républicains que de faire un mariage avec le RN. L'extrême droite, comme vous le savez, est devenue la droite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'ultra-droite pour désigner ce qu'on appelait autrefois l'extrême droite. Oui. La manipulation génétique a bel et bien réussi.
C'est pas faux.
En revanche, quelle surprise de voir désormais que la gauche est aussi capable de mêler ses voix avec le RN. Peut-être pour de bonnes raisons, mais tout de même, une surprise d'autant plus que c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu voir ce débat à l'Assemblée, on aurait vu tomber les masques. Et ce qui serait amusant d'ailleurs, ce serait une dissolution. Mais cela ne se fera pas parce que Jordan Bardella, premier ministre de Macron, qui en 2027 ferait comme Balladur en son temps, se présenterait en même temps que Marine Le Pen, ça nous rajeunirait. Par contre, il y en a deux qui font de la peine. C'est Gérald Darmanin, bien sûr, lui qui avait acheté des actions Air France, pensant faire une plus-value avec les expulsions, a pris un sacré coup sur le bec. Il ne peut plus être en cause pour le poste de Premier ministre et Elisabeth Borne doit se marrer un petit peu dans son coin. Il paye le prix de son assurance et de son agressivité là où il aurait dû faire la cour et il a fait l'impétueux. Le deuxième qui fait peine à voir, c'est notre président désormais, on peut le surnommer Emmanuel Lachkoumoun. Comment va-t-il faire d'ici la fin de son quinquennat? Sa seule chance de gouverner, c'est d'adhérer aux Républicains qui ne voudraient probablement pas de lui. Il pourrait reprendre le slogan que les guignols mettaient autrefois dans la bouche de Chirac. Putain, encore 3 ans.
Ah, c'est pas mal ça. Bien dit, bien dit. Bien dit.
Et oui, et cette semaine, dans l'actualité, on a aussi la COP qui fait semblant de s'achever bien avec un accord où la formule de rhétorique principale est l'euphémisme pour ne fâcher personne, alors que la planète, elle, est très très en colère. Inondation ici et 29 degrés sous la pluie à Malaga en plein décembre.
Oui.
D'autres ont pris les devants et sont exemplaires pour diminuer leur empreinte écologique. Ils ne brûlent plus d'essence, n'utilisent pas d'électricité, ne gâchent pas d'eau car ils n'en ont pas. Ce sont les Palestiniens de Gaza. Mais ça, c'est de l'ironie déplacée. Vous l'avez bien compris, mon cher Adil.
Oui, absolument. Bravo pour votre billet d'humeur. Bravo, comme chaque mercredi d'ailleurs. On se régale. Hein. Merci, mon cher docteur Majid Seoussine. Ça va, le boulot? Ça
à
se passe bien?
Oh, ça se passe comme ça se passe à l'hôpital, mon cher. Hein. Oui. On va pas vous faire de grands dessins.
Non, ça, je vous l'accorde. Merci à vous. Prenez soin de vous et bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine à vous aussi. Au revoir.
Merci à vous. Très vite. Nadir Kaya, à bientôt.
Oui.
À bientôt, ça y est, on arrive au thème de cette émission.
Ah, je vois ça, ça passe tellement vite.
Et ça passe
là,
vite.
C'était
hein.
assez animé. Ouais.
Assez animé, et puis on a...
On avait un gars de l'extrême droite, un écologiste, humaniste.
C'était qui le gars de l'extrême droite?
Moi, j'essaie de me trouver
Nadir,
au milieu.
Nadir, Adam Kouala qui n'est pas là. Merci Guillaume de Souy.
Merci.
Je peux faire une dédicace pour un ami?
Rapidement.
Mon ami, l'imam Hassan Chalgoumi.
Ah bon?
Oui.
Ah, je crois que c'était une blague, c'est sérieux. C'est fréquentation.
Ah oui, c'est un ami.
Écoutez. C'est votre droit. Oui, mais je... Merci Adil Kourak.
Merci Adil.
Merci.
Il y a coup oblique. Non, il y a différents girafes.
Solal à la réalisation. Merci. Attendez. Solal à la réalisation. Bilal Lelman prend le contrôle avec Time Sport de 20h à 21h. Vanessa, s'il vous plaît. Vanessa de 21h à 23h. Kim, demain matin de 7h à 10h. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et à demain avec autant de plaisir. Mais surtout, c'est ce qu'on fait.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.